Radio Kapi.
Le journal, c'est tout de suite avec Jocelyne Moussaou.
Le gouvernement provincial du Haut-Katanga dévoile les différentes marques de la farine de maïs contaminée à l'aflatoxine et invite la population à s'abstenir de la consommer. Le banditisme urbain s'intensifie à Kinshasa. 3 maisons d'habitation ont été visitées cette nuit dans la commune de Ngiringiri par des bandits armés. Bilan, 4 blessés et plusieurs biens de valeur emportés. Début depuis la semaine dernière dans la province du Lualaba des opérations de marquage des armes. Nous en parlons avec le chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, Jean-Paul Matou, qui est l'invité de cette édition. Bonjour à tous. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga annonce plusieurs mesures pour sécuriser la population en rapport avec les marques de la farine de maïs contaminée à la flatoxine. Il s'agit notamment de Africa Milling, Roller Mill and Breakfast, Farm Feed Super Dog Mill, Continental Milling, Echabco Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Ainsi, la population est appelée non seulement à être vigilante, mais aussi à s'abstenir de consommer la farine dont les sacs portent ces différentes marques. D'autres détails avec le ministre provincial de la Communication et porte-parole du gouvernement du Haut-Katanga, Georges Kadinga, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Dans le souci de protéger la population contre toute intoxication due à la farine contaminée par la flatoxine, le gouvernement provincial a pris les mesures ci-après. Le renforcement des mesures de contrôle à tous les postes douaniers de la province. Le renforcement des patrouilles mixtes PNC-FRDC tout au long de la frontière avec la Zambie. L'interdiction temporaire d'importer les emballages vides de toute autre marque de farine. Le prélèvement systématique des échantillons pour analyse dans les laboratoires de l'OCC. La consignation des stock dans les entrepôts de la DGDA jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse de l'OCC. Le contrôle des stocks de farine dans les différents dépôts de la province du Haut-Katanga. Par ailleurs, le gouvernement provincial demande à la population de s'abstenir de consommer la farine des marques de fabrique et de commerce citées ci-haut et d'informer l'autorité la plus proche sur toute activité suspecte tendant à reconditionner la farine de maïs dans les nouveaux emballages. Un contact permanent est maintenu avec les autorités zambiennes pour qu'aucun commerçant véreux ne se serve de son territoire pour des opérations de changement d'emballage.
À Kinshasa, des bandits munis d'armes létales et non létales ont tour à tour visité la nuit dernière 3 maisons d'habitation situées sur l'avenue Kenge, quartier Elengesa dans la commune de Ngiringiri. Selon le bailleur de la parcelle visitée, ces assaillants ont blessé 4 personnes et emporté plusieurs biens de valeur avant de prendre la fuite. C'est un reportage de Blaise Ndonga Lamayanda.
L'attaque de ces criminels est intervenue aux environs des 10h du matin, comme affirment les bailleurs de la parcelle visitée. À leur arrivée, ces hommes armés, dont certains en tenue militaire, ont escaladé la clôture de la parcelle et cassé tour à tour des portes de 3 maisons où ils ont emporté plusieurs biens de valeur ainsi que des sommes importantes en devises, comme explique l'une des victimes, Emmanuel Movia Diampova.
J'ai reçu 3 coups de machette sur la tête. Après ma maison, ils ont allé attaquer la maison de mon locataire. Ils ont apporté 3 postes téléviseurs et puis des sommes consistantes, hein, parce que nous préparons aussi la rentrée des enfants. L'enveloppe apportée peut atteindre plus de 2 000 $, hein. 40 minutes après leur départ, la police est arrivée. Ils ont fait ce qu'ils ont fait comme constat. Mais mon fils était même trop fâché pour leur dire que non, ça ne vaut pas la peine que vous veniez, parce qu'au moment où on avait besoin de votre intervention, vous ne vous êtes pas présenté.
Il a également regretté que ces hors-la-loi aient opéré pendant plus d'une heure sans être inquiété alors qu'un poste de la police nationale se trouve dans les environs. Emmanuel Movia Diampova a précisé que des personnes blessées sont admises à un centre de santé le plus proche pour des soins appropriés. Il a par ailleurs recommandé aux autorités provinciales de mettre fin à l'impunité et de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.
La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a présidé hier mercredi à Kinshasa la table ronde inclusive de la jeunesse congolaise. Cette rencontre réunit des centaines de jeunes venus des différentes provinces du pays. Elle les a appelés à lutter contre le tribalisme et la corruption. Karine Topéridassi nous fait le point.
Pour la chef du gouvernement, il est essentiel que les jeunes Congolais s'impliquent dans la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent la société, dont le népotisme, le tribalisme, la corruption. Judith Suminois les a également encouragés à être des artisans de paix et à cultiver la tolérance. Cette table ronde constitue aussi l'opportunité d'écouter les préoccupations de jeunes, leurs idées et leurs attentes pour la construction d'un Congo prospère et paisible. Judith Suminois a également édifié ces jeunes sur le programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui met un accent particulier sur l'insertion socio-économique des jeunes et leur épanouissement personnel. Des questions liées à l'entrepreneuriat, au chômage de jeunes, à l'agriculture, à l'éducation, au banditisme urbain et à l'usage des réseaux sociaux étaient également au centre des échanges. Lors de ces tables rondes, 20 projets innovants seront présentés et bénéficieront des financements du gouvernement.
En Ituri, un convoi des casques bleus de la MONUSCO a essuyé des tirs d'armes à feu mercredi vers 16h au village de Bali dans le territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, ces soldats onusiens étaient en patrouille de routine dans la zone quand ils ont croisé un groupe de miliciens identifiés comme ceux de la CADECO. Toujours selon les mêmes sources, ces miliciens ont tiré en direction des casques bleus de la MONUSCO qu'ils soupçonnaient d'être venus pour les attaquer avec les FARDC. Les casques bleus n'ont pas répliqué à cette attaque et ont poursuivi leur route. Aucun dégât n'a été enregistré, précise des sources concordantes. Consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial du Tanganyika et les agences du système des Nations Unies. Les deux parties se sont réunies hier mercredi à Kalemie. À cette occasion, l'autorité provinciale et son équipe gouvernementale ont été informées sur les étapes déjà franchies dans la mise en œuvre des différents programmes des agences des Nations Unies. Le point avec Paula Munanga.
Dans son adresse, la chef de la sous-délégation du HCR Kalemie a, au nom de l'équipe provinciale des Nations Unies, démontré l'importance de la consolidation des relations entre les gouvernements et les agences du système des Nations Unies. Cathy Daniel Moni a souligné que ces assises visent à promouvoir les mécanismes de partenariat afin d'accompagner les efforts du gouvernement du Tanganyika pour une plus grande inclusivité et redevabilité dans les actions humanitaires. En outre, elle vise à coordonner la contribution des Nations Unies au processus de développement provincial. À cette occasion, l'équipe gouvernementale du Tanganyika a été informée sur les étapes déjà franchies dans la mise en œuvre de l'approche Nexus qui comprend les volets humanitaires, développement et paix. Pour sa part, le gouverneur du Tanganyika a salué l'intervention qu'apportent les agences humanitaires dans la province. Christian Kitungwa s'est engagé à rendre ce partenariat encore plus bénéfique pour la population. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Les cadres territoriaux et agents publics de l'État du territoire de Luozi bénéficient d'une formation de renforcement des capacités depuis hier mercredi. Nous sommes au Congo central. Cette séance est organisée à la cité de Luozi par l'inspection provinciale de la territoriale avec l'accompagnement de l'Observatoire de lutte contre la corruption et l'éthique professionnelle, OSEP. C'est dans le cadre de la vulgarisation du code de conduite de l'agent public de l'État. Selon Sabin Sabiboko, inspecteur provincial de la territoriale du Congo central, son objectif est de doter les animateurs de la territoriale des outils nécessaires pour une gestion optimale des leurs entités. Le point avec Nana Plurich-Mambou.
Prennent part à cette formation l'administrateur des territoires de Luozi, les 10 chefs de secteur et les chefs des différents groupements de Luozi, ainsi que les chefs des différents services étatiques. Les modules sélectionnés sont les codes de conduite de l'agent public de l'État, l'état civil, attribution du chef de groupement, la décentralisation, principes fondamentaux de l'administration publique, principes d'action d'un territorial, itinérance, les pièces périodiques ainsi que les textes essentiels d'un territorial. L'inspecteur provincial de la territoriale du Congo central qui dirige cette session évoque son importance. Sabin Sadiboko.
La formation que nous organisons aujourd'hui est très capitale parce que ça concerne les cadres territoriaux qui sont des responsables de leurs entités respectives. Nous leur dotons des outils nécessaires pour une bonne gestion de leurs entités, pour l'encadrement de la population. Et dans l'encadrement de la population, nous voyons d'abord la sécurité, la tranquillité, l'ordre public et puis le développement.
À l'issue de la formation, les brevets de participation et les codes de conduite de l'agent public seront remis aux participants. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la société civile alerte sur une flambée de cas de diarrhée coléreforme dans au moins deux aires de santé de la zone de santé des Walikale, à environ 200 km de Goma. C'est notamment dans les aires de santé de Bilobilo et de Moubi. Le médecin-chef de cette entité sanitaire qui confirme l'information parle d'au moins 200 cas déjà enregistrés et 17 décès depuis l'apparition de la maladie au mois de juin. Le président de la société civile de Walikale appelle à une intervention urgente pour limiter la propagation. Fiston Missona, dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, nous venons d'enregistrer au moins 17 morts. Il y a beaucoup de cas qui restent encore sous surveillance. Beaucoup de cas viennent dans le site miné d'Oumate, dans le aire de santé de Bilobilo. Jusqu'à maintenant, l'intervenant pour cette épidémie, c'est le MSF Hollande. Mais cette intervention reste encore minime. Il y a autant de besoins. Les cas qui continuent à être reçus dans les centres de santé, il n'y a pas le système isolement. Le malade passe la nuit sous les sols. Les autres malades dans les centres de santé restent à être exposés. Nous voudrions que les autorités sanitaires et les autorités politico-administratives du territoire de Walikale puissent justement continuer à alerter, à mobiliser les partenaires pour venir en aide à cette population.
Le docteur Bingi Richard, médecin chef de zone de Walikale, précise que si l'autorité provinciale n'a pas encore déclaré officiellement l'épidémie de choléra à Walikale, cette propagation devient inquiétante. Pour lui, l'enclavement de Walikale est l'un des principaux défis aux efforts de la riposte et de l'approvisionnement des intrants. À Beni, au Nord Kivu, l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni, Monseigneur Sikuli Paluku, tire la sonnette d'alarme face à l'avancée du monkeypox. Dans un communiqué pastoral d'hier mercredi, il exhorte la communauté de la région de Beni Butembo et Lubero à redoubler de vigilance et à respecter les mesures barrières pour enrayer cette maladie virale. Martial Papimukeba nous en dit plus.
Dans son message, Mgr Sikuli Paluku Melchisedek rappelle que le Mpox, une maladie infectieuse virale hautement contagieuse, continue de progresser dangereusement dans les pays. Il insiste sur l'importance de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, non seulement lors des célébrations religieuses, mais aussi dans toutes les sphères de la vie quotidienne, à la maison, au marché, à l'école et même dans les activités sportives. Les mesures préconisées incluent l'évitement des contacts directs avec des cas suspects, l'entretien d'une hygiène rigoureuse et la prudence face aux animaux morts ou objets potentiellement contaminés. L'évêque souligne également l'importance d'orienter rapidement les malades vers les structures de santé adéquates et met en garde contre toute politisation de la maladie. Signalons toutefois que jusqu'à ce jour, aucun cas positif de Mpox n'a été notifié dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les forces haïtiennes et la police kényane ont mené une opération conjointe hier mercredi au centre-ville de Port-au-Prince pour chasser les gangs criminels de l'un des quartiers les plus difficiles de la capitale haïtienne. Le premier ministre haïtien Gary Ekoni s'est rendu dans un hôpital au chevet des trois policiers haïtiens blessés lors d'une fusillade dans le quartier pauvre de Bel Air, contrôlé par des gangs. Changement inattendu à la tête de la mairie d'Antananarivo, quelques jours à peine après le remaniement du gouvernement. Richard Ramanambitana, proche d'Andry Rajoelina, désigné en mars dernier par l'exécutif pour pallier l'absence de maire à la commune, vient donc d'être remplacé par Arilala Ramanantsoa, figure de l'entrepreneuriat malgache et ancienne conseillère municipale d'Antananarivo. Une passation qui a eu lieu hier mercredi à l'hôtel de ville de la capitale de Madagascar qui intervient à 3 mois et demi des élections municipales.
L'invité.
Notre invité, c'est Jean-Paul Matouk. C'est un nouveau chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Il intervient en ce jour sur nos antennes pour parler des opérations de marquage des armes qui ont débuté dans la province de Lualaba depuis la semaine dernière, suivant son entretien qu'il a eu avec Askin Zigbiataïro.
Bonjour, monsieur Jean-Paul Matouk.
Bonjour.
Voilà, mercredi dernier, votre installation officielle comme chef d'antenne provinciale de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres a coïncidé avec le lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes dans la province de Lualaba. Quelle est vraiment l'importance pour la République de faire le marquage des armes?
L'importance des marquages dans la République démocratique du Congo, comme dans d'autres coins du monde d'ailleurs, s'inscrit dans le processus qui permet le bon suivi et contrôle des armes tout au long de leur cycle de vie et facilite leur traçage en cas de détournement. Comme vous le savez, les armes sont toujours exposées au détournement. Et donc, le marquage et l'enregistrement des armes permet de faciliter les acteurs, par exemple, de la chaîne pénale, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'appui de la CNC en matière de profilage et de traçage des armes pour savoir de qui ou de quelle unité provient telle ou telle autre arme trouvée sur un lieu des crimes, par exemple.
Alors, quels sont les types d'armes qui sont concernées par le marquage?
Les types d'armes qui relèvent des attributions de la Commission nationale sont principalement les armes légères et de petit calibre. Et là, il faut souligner qu'il existe la catégorie d'armes d'État, donc les armes organiques qui sont attribuées aux unités des forces de défense et de sécurité, comme les FARDC et la PNC. Et une autre catégorie, ce sont des armes individuelles appartenant à des civils légalement autorisés. Mais là encore, il faut souligner qu'il existe à la Commission nationale un service permanent de marquage qui a été établi pour marquer les stocks non organiques, c'est-à-dire les armes non encore attribuées préalablement à leur dotation aux unités.
Monsieur Matouk, en faisant un état des lieux sur la circulation des armes dans la province de Lualaba, qu'avez-vous vraiment constaté concrètement?
Au stade actuel, il est prématuré de donner un quelconque état des lieux de façon concrète de la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. Mais au regard des événements qui se sont succédés dans cette partie du pays, il va de soi que la circulation illicite des armes légères et des petits calibres soit une réalité. Nous savons aussi que le Lualaba est limitrophe des 4 provinces de la RDC, 3 provinces de l'Angola et une province de la Zambie. Et donc cette position géographique confère à la province du Lualaba un caractère complexe sur le plan sécuritaire, si je peux me permettre l'expression.
Il y a beaucoup d'activités de différents services qui se font autour de votre commission. Que ferez-vous en priorité pour réussir la mission qui vous a été confiée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui vous a personnellement installé dans votre fonction?
Parmi les actions prioritaires, nous avons déjà les opérations en cours, les opérations de marquage et enregistrement d'armes, de forces de défense et de sécurité, mais aussi les armes détenues légalement par les civils. Nous aurons aussi des études de terrain pour permettre de cartographier les armes illégalement détenues par les civils afin d'arriver à la sensibilisation en vue d'un désarmement civil volontaire. Nous aurons aussi des activités, n'est-ce pas, des renforcements des capacités en matière de profilage et traçage des armes légères et des petits calibres pour servir des meilleurs appuis aux acteurs de la chaîne pénale comme l'auditorat militaire et les autres services judiciaires.
Monsieur Jean-Paul Matouk, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Salutations aux auditeurs de la Radio Capi.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Pelekipela Mondo, d'Eps Vita, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.